à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode de la troisième manche. Aujourd'hui, on va parler gros globe de cristal pour Odermatt et peut-être pour la Ragout Bérami. On va parler de la relève suisse avec cet incroyable Franjo Fennalmann. On va aussi parler de ce qui se passe en Autriche parce que la Wunder Team n'est plus si magnifique que ça. Pour ce faire, j'ai rendez-vous avec Rebecca Garcia et Sylvain Bolt du Sport Center ainsi que Sim Wiesgott, envoyé spécial en Autriche pour le site skiactu.ch. Bonne écoute de la troisième manche. On commence par notre invité viennoise, Sim, merci d'être là, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Ça va mieux que les skieurs autrichiens, tu fais plaisir. Et avec moi aussi, Sylvain et Rebecca du Sport Center, salut les collègues.
Hello Robin.
Salut.
Bon, on va commencer un peu avec la Suisse, forcément, parce que ça a été un bon week-end de ski pour nous encore. Tout seigneur, tout honneur, Marco Odermatt, Sylvain. Il a été peut-être un peu vexé de son premier Super G. Le record, il l'a conjointement avec Hermann Meyer de 12 podiums de suite en Super G. Et quand il a tout donné le dimanche, ça a été de nouveau un écrasage en règle de la concurrence.
Ouais, c'est ça. Et puis un peu revanchard, on avait l'impression dimanche, après avoir été écarté pour 3 centièmes par son coéquipier Loïc Meyer. En même temps, il a été super bon perdant et très content aussi pour Loïc. C'est aussi un peu challenge à Schladming, hein, avec cette 11e place en première manche et puis la remontada en deuxième. Je crois que Sim, tu étais sur place. Hein.
Oui, et
ça, je trouve assez chouette parce que du coup, il prouve que même dans des conditions un peu où il s'auto-challenge, où il s'auto un peu met dans le dur, il arrive quand même à gagner et à répondre en deuxième manche ou le jour d'après une contre-performance, même si une quatrième place à 3 centièmes, c'est pas vraiment non plus scandaleux.
Sim, quand tu vois Stodermatt, ça doit être un peu chiant déjà pour les Autrichiens aussi. Le gars, il s'est fait d'horreur, quoi. Il est presque reparfait, il est presque plus content pour les autres qui font podium que quand lui gagne. Comment on vit le Stodermatt de l'autre côté des Alpes?
En fait, c'est comme dans n'importe quel sport, faut aussi admettre que c'est un super champion. C'est génial à regarder. Enfin, Marco Odermatt, c'est incroyable à regarder. Tu peux pas lui en vouloir de gagner parce que c'est tellement génial à regarder. Donc, je crois que même les Autrichiens, ils l'adorent. Donc, il y a des champions que, bon, après, t'es pas trop content quand il gagne parce que t'aurais pu gagner, mais là, il est tellement au-dessus de tout le monde que, enfin, ça fait juste plaisir à regarder parce que c'est comme tu dis, c'est parfait. Donc oui, les Autrichiens, en fait, ils l'aiment bien, quoi. C'est pas du tout. Il y a eu des rivalités dans le passé avec d'autres champions, mais en fait, avec Odermatt, tu vois rien de négatif sur lui, quoi.
Rebecca, nous, Marcel Hirscher, par exemple, on l'aimait pas.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'Odermatt, il a vraiment ce côté, bon gars, quoi. Il va trinquer à Kitzbühel avec ses rivaux. Enfin, il a toujours un mot un peu sympa pour eux. Toujours la petite phrase qui fait rigoler. Donc c'est vrai que c'est. Il fait quand même l'unanimité, ça peut dur de dire le contraire, quoi. Donc ça fait plaisir. Et effectivement, on a aussi des champions et notamment des championnes qui sont un peu moins, qui font un peu moins l'unanimité, on va dire, qui sont un peu plus vivants.
Oui, d'elle, oui.
Et voilà, je pense que c'est une question de caractère. Peut-être qu'Hirscher avait un côté un peu plus, on aimait un peu plus le détester. Odermatt, j'ai pas l'impression qu'on a envie de le détester d'une manière ou d'une autre.
Sylvain, la France a remis un tout devant dans des conditions un peu spéciales. Est-ce que Sarrazin, il est arrivé au bout? On a vu ses petits défauts, hein, quand la neige n'est pas forcément pour lui, quand tout ne va pas bien de A à Z, ça redevient un skieur normal finalement.
Ouais, et puis hier aussi, il est sorti assez vite. Il est tombé un peu dans ses travers avec ses éliminations parce qu'il prend trop de risques. Mais il ne faut pas l'enterrer trop vite, puis c'est surtout en descente hein, où il a encore toutes ses chances puisqu'il est à 6 points d'Odermatt et puis il reste 2 courses avec les annulations de Chamonix, donc il est quand même encore en course pour ce globe et puis il reste toujours dangereux, mais on voit que sur la longueur ça va être compliqué quand même pour rivaliser avec Odermatt.
Ces annulations à Chamonix, justement, je crois que la FIS a appris de ses erreurs et ne veut pas forcer d'organiser une mini-descente, un sprint ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas réussi à retrouver une station pour organiser ces deux descentes. Tu penses que la FIS a un peu appris de ses erreurs?
Oh, ça, je sais pas. Je crois que ça dure depuis tellement longtemps. Ça dure depuis le début de la saison qu'on se pose des questions et qu'on aurait pu faire quelque chose avant. Et là, je crois que c'est simplement, ils se sont dit, bon, là ça va plus du tout. Et puis, s'ils ont appris quelque chose, c'est probablement aussi avec les chutes, ces affreuses chutes qu'on a eues ces dernières semaines, où même si on dit. Enfin, il y avait beaucoup de différentes raisons pour, mais il y a quand même la fatigue qui arrive, l'intensité du mois de janvier. Je crois que c'est triste que ça en est arrivé là, mais je crois que là, on peut pas nier le fait que le calendrier était trop chargé, que les skieurs, enfin, on dit toujours les skieurs ont le choix, enfin, ils n'ont pas besoin de faire toutes les courses, mais si tu leur donnes les courses à faire, bah, s'ils veulent faire la. Aller partir pour le globe, ben, faut bien qu'il dispute ses courses. Et donc, ils n'ont pas vraiment le choix. Et je crois que, ouais, la fille, je crois que simplement, elle était un peu dans. Elle n'avait pas le choix, quoi. Elle fallait qu'elle prenne cette décision. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va apprendre ça à long terme et changer sa façon de faire dans les prochaines saisons.
Et ouais, juste,
Vas-y.
pardon. Non, juste, il y a un petit souci aussi de communication au niveau de la FIS, parce que Marcus Vallner à Wengen, on se rappelle la chute de Kildee et puis d'autres, hein, de Pinturo, il avait dit au Team Captain Meeting, où tous les chefs d'équipe se retrouvent, que après ces incidents de Wengen, les descentes ne seraient plus reprogrammées ou replacées, les descentes annulées. Et puis là, dans le communiqué de la FIS après les annulations de Chamonix, c'est écrit qu'ils ont essayé par tous les moyens de trouver une solution, de les remplacer, mais qu'ils n'ont pas trouvé, voilà. Donc, on voit qu'ils ne sont pas unis et qu'il y a des problèmes parce que ce n'est pas clair de communiquer comme ça. Quelle est la décision? Est-ce que les descentes sont reprises quand elles sont annulées ou pas? On ne sait pas. Ce n'est pas
Ben,
clair.
si tu ne peux pas dire ça pour les assurances, pour
Pour la
les
forme,
télés,
peut-être.
il y a peut-être un truc
Peut-être,
comme ça.
mais ça serait bien une fois pour toutes d'avoir une vision commune. Et puis, on a l'impression que c'est chacun dans son coin, c'est Elia sur son canapé. Et puis enfin, y a quand même des tensions et on le sent vraiment.
Ouais, juste pour ajouter ça, je crois que tu as tout à fait raison, Sylvain, c'est la FIS, c'est pas. Ils ne sont pas unis là en ce moment. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de différentes personnes qui disent différentes choses. Marcus Waldner qui est
Il pète un
plus,
câble.
qui est toujours sur les courses, les épreuves de Coupe du Monde, qui est là, qui parle avec les athlètes, avec les entraîneurs, il voit ça lui-même. Elias, qu'on a vu à Kitzbühel, mais sinon, on ne l'a pas vraiment vu en Coupe du Monde cette saison. Donc, ouais, il y a un problème de communication, ou bien simplement qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne veulent pas vraiment le dire. Donc, chacun sort des communiqués, sort des commentaires à gauche et à droite, et on n'est pas trop sûr de quelle est l'opinion de la FIS ou quelle est la position de la FIS en ce moment.
Faudrait demander à John Kerry. On pouvait pas les faire à Zermatt, Sylvain, c'est des descentes.
Bah pourquoi pas, ouais. Elles vont avoir
Mais
lieu,
non,
quoi,
ils t'ont dit que les
théoriquement.
hôtels étaient pleins, ils n'avaient pas besoin de faire.
Hein. Ouais.
Non, mais surtout, ce qui est paradoxal, au-delà de la communication de la FIS, c'est qu'on en arrive à avoir des athlètes comme Marco Odermatt qui disent après la victoire, enfin, pour paraphraser, au moins je pourrais me reposer parce que j'hésitais à faire la passe sur Bansko. Enfin, quand on a un athlète qu'on a à dire, bon, je savais que j'allais devoir sucrer une course parce que c'est intenable le calendrier, c'est qu'il y a un problème de conception de base. Et normalement, quand tu annules une course, t'as pas des athlètes, et même le meilleur athlète actuel qui devrait dire, ah cool, je vais pouvoir enfin souffler, quoi. C'est quand même un peu paradoxal.
Rebecca, je ne vais pas déflorer ton papier des journaux régionaux de demain, mais est-ce que chez les femmes, ce qu'on a vécu ce week-end, c'est même cause, mêmes effets que chez les hommes il y a quelques semaines à Wengen, toutes ces blessures, tout cet enchaînement d'hélicoptères?
Bah de ce qu'on voit, c'est un peu l'exact même chose, quoi. Bah, Lara Gubb-Merami, là, hier, elle a dit trois courses de vitesse en un week-end. Parce que après chaque course, évidemment, il y a eu quoi, 12 DNF le premier jour, dont les énormes chutes de Shiffrin, de plein d'autres concurrentes. Le deuxième jour, je crois que c'était 10 éliminations, et le troisième, 15. Enfin, c'est vraiment un truc, 35 éliminés en tout. Alors des fois pas grave du tout, des fois bah rupture, enfin déchirure de ligaments croisés antérieurs comme Ellen et Souter. Et ce qui est beaucoup mis en cause, c'est vraiment le temps de récupération. C'est chaque fois ce temps de récupération toujours moindre. Ami qui dit, alors oui, on est des skieuses, mais derrière on passe 2 heures à faire des interviews après la course, après il y a l'analyse vidéo qui prend 3 heures, après il faut aller au tirage des dossards, après etc etc. Et bah, tu te retrouves avec des athlètes qui effectivement peuvent se reposer, qui pensent plutôt aussi au moment d'être dans le portillon de départ et qui se plantent et potentiellement se font super mal, quoi.
Sim, on l'a vu hein, ce week-end, c'est pas la difficulté de ce virage avec le saut devant qui a blessé, parce que beaucoup sont très bien passés, on a vu la Ragout a maîtrisé le truc parfait, mais c'est vraiment, tu sens que bah, le corps il tient plus là où d'un moment.
Bah, c'était en fait, c'était après la première course, la vendredi, j'ai trouvé très intéressant les commentaires de la Ragout Bahrami, parce que justement elle avait dit, c'est la course était, enfin les conditions étaient parfaites, la piste était bonne, le temps était magnifique, et en fait c'était plus l'approche des skieuses que j'ai trouvé très intéressant. Bon, évidemment elle ça a bien marché pour elle, donc voilà, elle a su négocier la piste. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aussi entendu de Nicole Schmidhofer, l'ancienne skieuse autrichienne, qui est commentatrice à l'ORF. Les deux sont dans la même génération et elles parlaient un petit peu du fait qu'il faut utiliser plus son expérience et que maintenant les skieuses, elles ont tellement, faut tellement pousser. À chaque moment que dès que tu as 2 secondes, tu vas t'entraîner, dès que tu peux. Faut vraiment tout analyser, tout est tellement précis et que du coup. Elle perd peut-être la flexibilité de juste t'adapter aux conditions qui avaient changé depuis l'entraînement et que du coup le plan n'a pas marché pour beaucoup de skieuses, tandis que pour justement les skieuses un peu plus expérimentées qui faisaient ça déjà il y a 10-15 ans où elles devaient plus simplement avoir le feeling de la piste, de la journée, elles arrivent mieux à s'adapter et que peut-être que maintenant c'est une faute qu'on analyse trop. Qu'on a un plan trop précis et que du coup, si tout d'un coup les choses ne sont pas exactement comme on avait prévu, ça va mal. Donc, c'était pas juste une question de fatigue, c'était aussi cette approche de. Parce que vraiment, comme tu dis, c'est dans le même virage l'une après l'autre. Et normalement, on a appris que, ah d'accord, là dans ce virage, il faut faire ça un peu différemment. Et là, c'était vraiment, c'était flagrant, quoi. Je crois que j'ai jamais vu 3 courses en un week-end où presque toutes les chutes étaient au même endroit. Et beaucoup de chutes, comme tu disais, Rebecca.
Sylvain, il y a aussi, on parle du matériel, hein, on parle aussi des pistes qui font de. Bah, c'est comme si tu vas à la patinoire de Graben puis que tu essayes de faire du ski dessus. Le matos, c'est devenu. Passe ton doigt sur une carre, tu vas te le couper. On a vu avec le mollet de Gilday à quel point c'est des armes tranchantes, c'est des sabres, c'est parce que les 3 mousquetaires sur ski. Le matos aussi fait que c'est beaucoup plus exigeant.
Ouais, c'est ça, la préparation des pistes et puis le matériel. Bon, on l'a vu, ouais, ces images, c'est choquant, quoi. Il s'est quasiment découpé la jambe. C'est, ouais. C'est vraiment. Âme sensible, s'abstenir, hein, c'est vraiment violent. Et voilà, les chocs aussi sur les réceptions des sauts à Val Gardena, notamment. Beaucoup se sont plaints des athlètes que ça décollait vraiment haut, les sauts. Et quand tu arrives sur une patinoire, la réception pour les articulations, bah, ça les travaille. Quand certains skieurs se sont déjà fait plusieurs fois les croisés, bah, peut-être qu'après. Sur la course d'après, cette accumulation de choc, elle fait que le genou, il est peut-être moins. Mais ça, c'est Rebecca qui pourra nous le dire, vu qu'elle bosse là-dessus, sur les genoux. Et sur les. Enfin, c'est vrai que cette saison, il y a une hécatombe, quoi. C'est la blessure classique du skieur. Hein. Mais là, il y en a eu beaucoup et beaucoup de skieurs de renom, chez les hommes et chez les femmes.
Rebecca, un avis sur les ligaments ?
Le ligament va bien, non, mais c'est vrai que c'est vraiment l'hécatombe, quoi. Et après, il y a justement plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte que vous pourrez lire dans l'article qui sort demain. Mais en gros, l'idée, c'est que déjà le matériel. Déjà le matériel, voilà, on arrive à des skis carvés qui en fait ont reporté les blessures qui étaient des fractures à l'époque plutôt dans des blessures ligamentaires parce que tu vas beaucoup plus vite, enfin voilà, tes skis découpent la piste, comme on dit, et du coup, tu te retrouves avec des genoux qui sont sursollicités et qui, au bout d'un moment, peuvent lâcher quand tu as un mouvement de trop ou une pression de trop. Et c'est vrai que c'est toujours un peu. Enfin, on a l'impression que c'est toujours un peu la même blessure. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que tu n'es pas un vrai skieur si tu t'es pas fait le croisé antérieur. Et c'est quasi vrai. En vrai, sur plein de podiums, tu regardes les gens qui sont dessus, ils se sont quasi tous fait le ligament croisé antérieur parce que c'est le baptême ou je sais pas. Mais du coup, tu peux t'en remettre. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que tu, si c'est que ligamentaire, tu t'en remets. Si tu commences à avoir des problèmes cartilagineux ou de ménisque, là, tu commences un peu plus à tirer la langue parce que ça se répare un petit peu moins bien quand même, voire pas du tout.
Sylvain.
Et juste pour ajouter à ça, la FIDE est en train de travailler sur un système de fixation intelligente parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire pour les genoux. L'airbag qui sera obligatoire l'année prochaine. Voilà, il y a le casque, mais en fait, ils sont presque nus sur leur combi, les athlètes. Et donc, le système de fixation intelligente serait a priori relié à l'airbag et sur un choc, les skis se déclencheraient. Parce que le problème, c'est qu'ils sont tellement dans la performance, les athlètes, qu'ils règlent vraiment leur ski. Les fixations se déclenchent vraiment au tout dernier moment. On l'a vu avec la chute de Kildé, qui ne se sont même pas déclenchées, justement. Parce que le problème, c'est que sur une réception sur la glace d'un saut, le ski ne doit pas se décrocher. Donc, il doit vraiment se décrocher à la dernière fois, vraiment, dans une situation extrême. Et c'est ça, là, un peu le problème. Et du coup, ils sont en train de travailler là-dessus. Et puis, il y a aussi un système de sous-vêtements anti-coupure. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça protégerait Kildé de ces couteaux qui le voilà, ça peut aider à des blessures un peu plus moins graves, disons. Mais voilà, juste la FIDE est en train de bosser dessus et voilà, mais c'est difficile parce que c'est aussi un marché de niche. Personne qui a des comme ça, personne s'inflige des pistes comme ça. Nous, on a avec Sim, on a lundi passé, on a pu descendre sur l'H13, mais deux jours après, il y avait certains bouts qui étaient complètement gelés, on voyait à quoi ça ressemblait. Puis on a fait des bouts où ils avaient un petit peu raboté pour les touristes. Mais tu te rends compte vraiment quand tu es au départ de la Strife, c'est un miroir en fait. Tu réfléchis sur la piste et puis tu vois que c'est une pente. C'est comme une patinoire en fait, inclinée à je ne sais pas combien de pourcentage.
70
degrés. Ouais. C'est dingue.
Bon, j'ai besoin d'un avis. On a vu que les blessures avaient zigouillé tout suspens chez les hommes pour le gros gloire. Mais est-ce que la chute et la blessure de Chiffrine, on ne sait pas combien de temps elle sera absente, mais est-ce que, Rebecca, ça peut ouvrir la porte au gros gloire pour Lara Gout-Bérami?
Très clairement, parce que Lara Gout-Bérami a montré qu'elle était hyper en forme. Enfin, elle est quand même d'une constance qui est assez exceptionnelle. Hein. Je pense que c'est important de le souligner sur ces courses du week-end qui ont été vraiment une hécatombe. Elle s'en sort deuxième, cinquième, première. Enfin, c'est une constance qui est incroyable. Et on voit qu'elle est sur son nuage, elle va bien, elle suit bien. C'est vrai qu'elle est dans un, comme dirait Loïc Meillard, elle est dans un momentum qui va bien. Et c'est vrai que Chiffrine, on n'a pas trop d'infos finalement, à part que justement, elle faisait l'impasse sur le reste des courses après sa chute, quand même grosse chute hein, de vendredi. Elle s'est fait une belle frayeur. Elle a quand même dit qu'elle n'allait pas à Kronplatz pour le géant de demain. Donc, donc, ça fait quand même un petit manque à gagner, même si elle a le slalom que Lara Gout-Bérami n'a pas. Il y a quand même match, je pense. Et justement, ça rend tout ça assez passionnant. Mais je pense que Lara Gout-Bérami a ses chances parce qu'elle est tellement bien en ce moment que même sans le slalom, elle a quand même l'occasion de marquer des points là où Michaela Schifrin, même si elle a eu une victoire surprise en descente à Saint-Moritz, parce que c'est pas vraiment la discipline où d'habitude elle gagne, elle va peut-être moins marquer de points, on n'est jamais à l'abri d'un DNF, comme justement Gout-Bérami a pris l'avantage en Super G, grâce à Conny Hutter qui DNF, au final c'est quand même vite là hein, de perdre 100 points d'un coup parce que t'enfourches, surtout en slalom.
Oui. Sim, tu penses que c'est jouable pour Lara Gout-Bérami?
J'oublie chaque fois le. Ah oui, absolument. Mais c'est comme disait Rebecca, elle est très constante cette saison. Dans toutes les. Et on voit aussi, on entend aussi dans ses interviews, comme on parle, c'est vraiment l'expérience de la skieuse qui fait ça depuis tant d'années, qui ressort, et c'est vraiment, elle a la confiance maintenant. Elle a déjà dit, elle risque de pas skier encore beaucoup de saisons. Donc, c'est vraiment maintenant ou jamais, mais en même temps, elle a ce côté décontracté que, voilà, elle sait ce qu'elle a besoin de faire, elle est confiante, elle a les résultats pour le prouver. Je crois que ça, il y a de très bonnes chances. Et pour les fans de sport, c'est génial à regarder parce que c'est autant on adore Marco Dormat, autant Michaela Schifrin est aussi super impressionnante à regarder, mais c'est toujours un peu plus excitant quand il y a. On n'est pas sûr qui c'est qui va gagner au bout du compte, quoi.
Sylvain, tu crois?
Oui, à moitié. Enfin, je trouve que c'est pas non plus le meilleur contexte. Enfin, je souhaite à Chiffrine de pouvoir revenir et de gagner le Grand Globe. quand même, parce que voilà, c'est pas très drôle, enfin, c'est pas très chouette de gagner un globe grâce à la blessure d'une grande rivale. Mais bon, ça relance un peu le suspense. Mais surtout, Lara Gudberami, elle peut jouer, elle est en tête du géant et du super G, elle est deuxième ou troisième, enfin, elle peut jouer aussi la descente. Et en fait, même quand elle a gagné le grand globe en 2016, elle avait entre guillemets que un globe, c'était le super G, que un petit globe. Et là, elle peut gagner trois petits globes. Donc moi, je voudrais bien qu'elle gagne les trois petits globes et chiffrine le grand.
Très, très bien. Bon, on continue à se taper un peu sur le ventre, Rebecca. On a vu des jeunes Suisses qui sont incroyablement performants déjà en Coupe du Monde. Ce Franjo von Almen, hallucinant. Mais il y a aussi des romans qui poussent. On est content.
Ils sont incroyables à part ça. C'est vraiment fou ce qu'ils font. Déjà l'année passée, on se tapait sur le ventre grâce à Alexis Bonnet, qui était vraiment le rookie qui faisait des top 15 de nulle part ou des top 20, enfin qui prenait des points à Wengen ou autre. Et là, tout d'un coup, Franjo von Almen, troisième, mais qu'est-ce qui se passe? Arnaud Boisset, il est impressionnant aussi. Et en plus, avoir tous ces bonnets roses dans le public, ça fait tellement plaisir. Moi, j'adore ces mimes aussi. Donc non, ils font vraiment plaisir. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas comment on peut expliquer justement cette... ces fulgurances qu'ils ont, mais qui commencent à être constantes en plus. Mais en tout cas, si j'étais le reste de l'équipe de vitesse, je commencerais un peu à m'inquiéter pour mon statut et ma place, parce que ça pousse fort. Hein.
Sylvain, attends, est-ce que j'ai pas un problème de... Ah. Est-ce que Sim, tu m'entends? Ah voilà, Sim est de retour. Sim, vu d'Autriche, ben, j'ai pas beaucoup de réseau, je suis en montagne. Sim, vu d'Autriche, c'est nouveau, ces petits jeunes, tous ceux qui viennent en équipe de Suisse, c'est ce qui manque à l'Autriche, finalement, une relève comme ça. J'ai l'impression que ça pousse pas tellement de l'autre côté des Alpes.
Non, ça c'est justement le problème, c'est la chose dont beaucoup d'anciens champions se plaignent depuis une ou deux saisons quand ils se demandent où sont les résultats, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relève. Les champions qu'on a là en ce moment, c'est tous des gens qui ont 30 ans plus, Vincent Kriechmeier, Manuel Feller, il y avait Marco Schwartz qui malheureusement là s'est blessé. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de relève, et le problème c'est que c'est pas juste en regardant là immédiatement la relève, mais c'est aussi... on regarde beaucoup plus loin ou simplement ça vient pas depuis les juniors. Oui, ça c'est clairement un problème. Mais d'un autre côté, oui, voilà, c'est dur à prévoir, quoi. Il y a toujours des gens comme Arnaud Boisset, Franjo von Almen. On savait qu'ils avaient des bons résultats, mais de tout d'un coup exploser comme ça sur la scène, enfin, moi, je n'ai pas vu venir, en tout cas. On a toujours des stars comme ça dans différentes équipes qui peuvent exploser. Katharina Lienzberger, elle avait fait ça aussi chez les Autrichiennes. Après, bon, maintenant, ça ne va plus du tout bien. Mais donc, voilà, c'est dur à prévoir. Il faut une relève, mais voilà. On espère que ça viendra de notre côté. Pour le moment, on regarde les Suisses et puis on a le plaisir à regarder ça.
Sylvain, qu'est-ce que Swisski a fait de mieux? Parce qu'on parle quand même de pays, de tradition de ski incroyable, où tout le monde ou presque doit faire un camp de ski quand il est gamin. J'étais à Lax il y a 2 semaines, je voyais des gamins de 3 ans qui faisaient du slalom. Il y a une vraie culture dans ces deux pays du ski et du ski de compète. Mais pourquoi est-ce qu'en Autriche, comme ça, il y a un trou?
C'est peut-être générationnel aussi, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a une forte densité. Il y a l'avantage aussi des Suisses d'avoir Sacef Zermatt de plus en plus, parce que ça devient de plus en plus serré l'été. Et les Suisses ont des avantages, des priorités et des meilleures conditions d'entraînement. Les jeunes Suisses aussi. Là où les Norvégiens, là, il y a les mondiaux juniors qui vont commencer mardi, ils vont tout rafler en technique. Parce que les Norvégiens, ils ont plutôt des stades de slalom nocturne. Après l'école, ils finissent tôt, ils vont s'entraîner en slalom, ils bouffent des piquets, comme on dit. Et ils sont bons en technique. Et puis nous, les Suisses, on est peut-être meilleurs en vitesse aussi parce qu'on a des bonnes conditions d'entraînement. Et aussi parce qu'il y a une immense densité. Franjo von Almen, il avait fait 3 médailles d'argent mondiaux juniors il y a 2 ans. Et là, en Coupe d'Europe, l'année passée, il était 2e du classement de la descente. Arnaud Boisset, il a gagné le Super G. C'est pour ça qu'ils se sont assurés une place fixe. Ce qui fait qu'ils ne doivent plus passer aussi par les qualifications internes. Donc, ils s'enlèvent un peu de la pression. Donc, l'un en Super G et l'autre en descente. Et ce qui fait qu'ils ont plus d'énergie aussi parce qu'ils ne jouent pas leur vie dans les jours avant les entraînements. Et puis, en fait, quand tu es suisse, pour être en Coupe du Monde comme eux, il faut tellement se battre en Coupe d'Europe dans l'antichambre où il n'y a pas de spectateurs, où c'est super la guerre, c'est super compliqué de se faire sa place, qu'en fait, quand ils arrivent en Coupe du Monde, ils sont peut-être beaucoup plus mûrs que peut-être l'Autriche, ce n'est pas le meilleur exemple, parce qu'il y a quand même aussi de la densité, mais que d'autres nations. Et du coup, c'est pour ça que ça explique, je pense, à mon avis, que ça performe assez vite. Et aussi, ils ont 22, 25 ans, hein, c'est pas non plus des gamins de 18 ans. Ils ont vraiment roulé leur boss en Coupe d'Europe. Ils ont accumulé énormément d'expérience. Ils ont skié sur certaines courses de Coupe du Monde. Et du coup, quand ils arrivent, ils sont mûrs et ils sont prêts aussi mentalement. Arnaud Boisset est très, très fort mentalement. On l'a vu à Kitzbühel, hein, avec cette histoire de l'hélicoptère. Il est hyper fort. Hein, un jeune qui arrive en Coupe du Monde, normalement, il est complètement déstabilisé par une situation comme ça. Il lui fait 9e parce qu'il en a vu d'autres. Ces dernières saisons, il a dû tellement se battre avec des blessures, revenir en Coupe d'Europe, garder sa place, y croire encore, que quand tu arrives en Coupe du Monde, tu te lâches, quoi.
Je crois que justement, ça, c'est une chose aussi, comme tu dis, le mental, parce que par exemple, on a eu Nadine Fest, l'Autrichienne, qui est excellente en Coupe d'Europe, mais en Coupe du Monde, ça ne va pas du tout. Donc, elle, plusieurs fois, on s'est dit, oh, c'est le grand espoir, et ça va pas. Donc, c'est comme tu dis, c'est la transition, c'est pas juste parce que tu es bon en Coupe d'Europe que tout de suite, ça va se transitionner en Coupe du Monde et aussi avoir du succès. Donc, ça, c'est aussi une question de mental. Je crois qu'ici, par exemple, en Autriche, il y a eu aussi des changements d'entraîneurs où c'était par exemple l'année dernière, tout d'un coup ils ont complètement changé leur façon de faire avec l'équipe, les différentes équipes, les entraîneurs, etc. surtout chez les dames. Et donc c'est aussi ça, je crois qu'il y a énormément de facteurs et quand des fois il suffit d'un petit déclic et tout marche, et des fois il y a tellement de différentes choses qui ne marchent pas, soit c'est les entraîneurs, soit c'est parce que l'équipe est trop fragmentée. Il y en a certains qui disent qu'ils devraient plus s'entraîner ensemble, comme ça il y aurait plus de compétition et ils devraient se prouver. Il y en a d'autres qui disent ouais, mais bon, du coup personne n'a assez d'attention pour qu'on focalise vraiment sur les choses qu'il faut changer. Donc oui, ici c'est un chantier quoi en ce moment, et très souvent ils regardent justement en Suisse qu'a fait Swisski qui est différent, qu'est-ce qui est mieux. En fait on a fait la même chose, mais pourquoi ça a marché là-bas, pourquoi pas ici. Donc, en tout cas, il y a un grand travail de réflexion là-dessus, un chantier, ça continue. Mais après, je dois quand même dire, quand on dit que les résultats, ça ne va pas du tout en Autriche, c'est quand même, on a quand même on a énormément de podiums. Vincent Kriechmeier, il n'est pas sur le podium, mais il fait des 4e, 5e, 6e places. Évidemment, ce n'est pas assez pour un champion du monde. Mais voilà, c'est aussi quand on parle de la catastrophe en Autriche, comme disent les journaux autrichiens, c'est aussi parce que les attentes ici sont énormes, tout comme en Suisse. C'est les pays du ski. Aux États-Unis, ils s'en foutent si Michaela Schifrin ne gagne pas. Ici, c'est une catastrophe nationale s'il y a un podium sans Autrichiens. Donc, c'est aussi les attentes qui sont différentes. Et les résultats sont là, sont juste pas au niveau de nos attentes, quoi.
Et puis, il ne faut pas oublier que Schwartz s'est blessé, hein. Et Schwartz, il faisait un début de saison incroyable, et c'est aussi une locomotive qui tire puis qui enlève un peu la pression. Et ça, voilà, si on perd Odermatt, peut-être la Suisse. Il faut dire qu'il y a eu deux autres podiums, hein, Yule en slalom et puis Meillard en Super G l'autre jour. Mais sinon, il n'y avait que Odermatt chez les hommes qui avaient fait des podiums, alors que chez les hommes, en Autriche, Feller, Schwartz, et d'autres. Hein.
Absolument.
Rebecca, comment c'est dans les aires d'arrivée? Parce qu'on sait que on aime bien se chambrer, nous, c'est plutôt avec les Français ou comme ça. Mais est-ce que tu vois les Suisses-Allemands jubilés du manque de réussite des Autrichiens? Parce qu'on sait que la rivalité, elle est costaude là-bas.
Bon, il y a toujours des gens un peu bizarres qui se réjouissent du malheur des autres, mais je sais pas, moi j'ai l'impression, enfin en tout cas, moi je traîne plutôt vers les gens un peu respectueux qui sont en mode belle course, et puis encore mieux si quelqu'un de Suisse gagne, parce que cocorico, mais... Mais j'ai pas l'impression qu'on soit à se réjouir que l'Autriche ne gagne pas ou autre. De toute façon, après, faut pas oublier que le ski alpin, ça va très vite. Comme a dit Sylvain, Marco Schwartz, c'était le rival d'Odermatt avant qu'il se blesse. Cogniter, elle était devant Lara Gut-Bérami en Super G. Enfin, c'est pas non plus la cata-cata. Et si tu regardes, là, j'ai regardé pour le fun les articles sur les Suisses. En 2020, on s'inquiétait quand même que la Suisse n'avait pas de victoire en géant depuis presque 10 ans. Et maintenant, Odermatt les gagne tous. Donc, en 6 mois, il y a la vérité s'inverse. Et du coup, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu moins catastrophiste. Et puis, c'est cool pour se chambrer, mais je pense qu'il n'y a pas de vraie inquiétude dans les camps des uns et des autres. À part peut-être Kristoffersen qui a l'air un peu saoulé d'avoir eu qu'un podium, mais ça, c'est encore autre chose.
Donc, Sim, l'Autriche, ça devient un pays de foot, en fait.
Ouais, non, franchement, non, on n'est pas encore là.
Merci les amis, c'était très intéressant. Je vous libère et moi, je vais sur les pistes. Bon après-midi.
Merci, bonne journée.
Merci, ciao. Ciao.